RTF Limoges, le magazine culturel.
C'est en 2022 que sort Des gens bien ordinaires, une série retrouvable sur Canal+, récemment premier aux Emmy Awards, réalisée par Ovidi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer et qui a accepté de répondre à toutes mes questions. C'est donc pour votre série Des gens bien ordinaires que vous avez remporté votre prix. Pourriez-vous nous parler un peu plus de cette série ?
Alors, Des gens bien ordinaires, c'est une série en 8 épisodes en format court, puisque ça fait à peu près entre 12 et 15 minutes par épisode. Et c'est une série qui est produite par Magnéto TV et qui a été financée par Canal+, et qui à l'origine était un court-métrage qui s'appelait « Un jour bien ordinaire ». Qui était un film que j'avais écrit il y a bien longtemps, déjà dès 2013, et que j'avais co-réalisé avec Corentin Coëplé en 2019, et qui en gros se passait, c'était une dystopie qui se passait dans un monde où les rapports de pouvoir étaient inversés, c'est-à-dire concrètement ça se passait dans un monde où les femmes dominaient quoi. Quand je dis les femmes dominaient, ça voulait pas dire qu'elles avaient des rôles caricaturales de femmes BDSM, c'était pas du tout ça, c'était dans le sens où il y avait une permutation des rapports de genre, une permutation des pouvoirs, et on était dans un monde où sans pousser les potards trop loin, les inégalités, le sexisme étaient inversés.
Votre série nous plonge dans une dystopie où les rôles sont donc inversés, comme vous venez de le dire. Pourquoi ce choix ?
L'idée, c'était faire ressortir la banalité du sexisme et ce système de permutation des pouvoirs, de permutation des genres, le permettait sans surexagérer les choses. C'est-à-dire au cinéma ou dans les séries, enfin dans la fiction, à l'écran, il faut toujours exagérer une situation pour qu'elle nous touche. Par exemple, si on doit évoquer une situation de violence, on a tendance à surexagérer la violence pour que ça nous touche. Moi, j'avais pas envie de surreprésenter ce sexisme, j'avais pas envie d'en faire quelque chose de caricatural, j'avais pas envie d'en faire quelque chose de trop violent physiquement non plus, parce que je trouvais que la banalité du sexisme, elle se suffisait. Et cette banalité, en fait, quand on inverse les rapports, elle ressort beaucoup plus facilement, parce qu'il y a des choses qu'on ne remarque même plus dans notre quotidien. Donc, elle va ressortir comment ? Par exemple, dès le début, en fait, on ne se rend pas forcément compte. Quand on regarde la série, au premier épisode, on ne se rend pas forcément compte que les rapports sont inversés. C'est plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne vraiment pas rond. Donc là, par exemple, au début de la série, il est regardé vraiment bizarrement par une femme très âgée dans les transports en commun, qui est quelque chose que je pense que toute femme a déjà vécu, de tomber sur quelqu'un qui nous dévisage et qui nous regarde avec un œil lubrique ou salace. Après, il y a des petites réflexions sur, par exemple, la question de l'âge. À un moment, le personnage principal, par exemple, a une relation avec une femme qui a 10 ans de plus, et ce qui est quelque chose d'une banalité sans nom quand il s'agit, par exemple, d'une femme avec un homme âgé de 10 ans de plus, où plus personne ne le relève, en fait, une différence d'âge de 10 ans entre un homme et une femme, plus personne ne le relève dans la société. En revanche, si c'est l'inverse, c'est-à-dire si, par exemple, c'est une nana qui a 10 ans de plus et un mec plus jeune, tout de suite, il y a quelque chose qui nous met mal à l'aise. Donc, par exemple, il va y avoir des petites discussions dans un épisode, ils vont dire « Ah, un mec plus âgé, moi, ça me dégoûte, boah, c'est dégueulasse », enfin, etc. Enfin, cette question de l'âge, nous on se la pose même plus. Poser dans cette série une permutation des genres, ça permet d'avoir de se prendre cette réalité là en pleine figure alors qu'on la relevait même plus quoi.
Comment est né votre projet ?
La naissance vraiment du projet, c'était à peu près en 2013, et j'avais envie à la base vraiment de faire un court métrage avec ce principe de permutation des genres. Et il y avait eu d'autres choses aussi qui avaient été faites un peu en reprenant ce principe-là, mais qui étaient très différentes, des choses très différentes de ce que j'avais envie de faire moi. Par exemple, il y avait eu Jackie au Royaume des Filles de Riyad Satouf, où là on est dans quelque chose de très comique, très surexagéré et tout ça. Bon, qui est un film qui me fait rire, hein, mais qui est dans quelque chose de surexagéré pour que ce soit drôle aussi. Il y avait aussi un court-métrage qui s'appelait Majorité opprimée. Donc là, on était sur un moment, il y avait une mise en scène d'un homme qui allait porter plainte pour agression sexuelle, et au commissariat, il y avait tous les poncifs de ce que connaissent les femmes habituellement, du genre mais vous étiez habillée comment, et vous aviez un short, etc. Enfin, je sais plus si c'était un short qu'il avait, mais en gros, vous l'avez un peu cherché, etc., etc. Donc, dans Majorité opprimée, il y avait déjà ce système d'inversion, et j'avais ce projet-là, et je me souviens qu'à l'époque, j'en avais parlé à plusieurs diffuseurs, et ça les avait pas intéressés plus que ça. Et après, j'ai écrit le projet, je pense, vers 2017-2018, quelque chose comme ça. Et de nouveau, ça parlait pas trop aux diffuseurs qui trouvaient que c'était, comment dire, je crois que c'est en 2017, et pour eux, c'était pas assez violent. Je crois qu'ils auraient voulu plus de violence, des gifles, des machins, des trucs comme ça. Ils trouvaient que j'allais pas assez loin, finalement, de cette dénonciation du sexisme. Ils voyaient pas le propos. La banalité du sexisme, ça leur parlait pas. Et arrive MeToo entre les deux. Il y a MeToo, donc octobre 2017. Et là, tout change dans le monde de la production audiovisuelle et surtout des diffuseurs. Tout change, c'est-à-dire il y a une prise de conscience collective du côté des décideurs. Et tout à coup, mon projet, donc j'ai représenté après MeToo, donc je sais pas, on était en 2018. Tout à coup, mon projet est devenu plus intéressant, je pense. Et donc voilà, ça a donné dans un premier temps ce court-métrage que j'avais écrit et donc on avait co-réalisé. Et puis après, je l'ai repris et ce court-métrage, je l'ai décliné en 8 épisodes et c'est devenu la série Des gens bien ordinaires, qui est une série où le casting n'est pas le même. Il y a une évolution entre le court-métrage d'origine et la série. Bon, déjà, c'est pas du tout le même type de réalisation. J'ai pris d'autres parties prises. J'ai réalisé l'image, elle est en 4 tiers, donc c'est un format différent. Et surtout, c'est pas les mêmes acteurs. Dans le court-métrage, il y avait déjà Roman Bouringer, mais le rôle principal était tenu par Pablo Cobo, alors que dans la série, c'est Jérémy Gillet qui interprète le rôle principal. Et dans le court-métrage, il y avait par exemple Benjamin Biolay qui était là et Benjamin Biolay n'est pas dans la série. Donc voilà, il y a des personnages qui ont disparu, il y a d'autres personnages qui sont réapparus et voilà. Et on a fait une saison 2.
Dans la réalisation, on vous connaît notamment dans le format documentaire. Est-ce que ce type de format, la série fiction, était dans vos projets ?
Ben, en fait, j'avais déjà réalisé pas mal de courts-métrages, j'avais déjà réalisé quelques fictions, mais pas sur de la série. J'avais jamais fait ça. Et on n'est pas très nombreux à avoir ce parcours-là, documentaire vers la fiction. Il y en a quand même quelques-uns et quelques-unes. Il y a Jean-Xavier de Lestrade, par exemple, là en ce moment, qui a une série qui s'appelle Sambre, qui est aussi sur des questions de violences faites aux femmes, de viol. Enfin, c'est sur le violeur de la Sambre, celui qu'on appelait le violeur de la Sambre. Et Jean-Xavier de Lestrade, il a travaillé aussi, un peu comme je peux le faire moi aussi sur certains documentaires, sur des formes hybrides avec des reconstitutions entre documentaire et docu-fiction. Il avait fait par exemple un film, un documentaire sur Véronique Courgeot qui était cette femme qui avait congelé ses bébés. Il y a d'autres personnes, il y a Noémie Loger en ce moment avec le film Rien à perdre avec Virginie Efira sur des histoires de perte de garde d'enfants. C'est aussi une réalisatrice qui vient du documentaire. Mais quand on regarde bien, tout ça pour dire, quand on regarde bien, on est quand même très très peu nombreux à faire ce passage du documentaire vers la fiction parce qu'il y a toujours cette idée que le documentaire c'est un peu un sous-genre, c'est un peu sous-prolétariat de l'audiovisuel et que c'est moins bien. Il y a cette idée que le documentaire c'est pas tout à fait un film. Et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que alors que ça fait moi je réalise depuis 23 ans maintenant, j'ai réalisé mon premier film en 2000 et j'ai réalisé aussi quand même beaucoup de documentaires ces dernières années, ces 10-15 dernières années, et moi j'entends encore des trucs du genre, alors que j'ai fait des cours, j'ai fait des séries, j'entends encore bon quand est-ce que tu fais ton premier film, sous-entendu quand est-ce que tu fais ton premier film pour le cinéma. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a encore cette hiérarchie entre documentaire, fiction télé, fiction cinéma, il y a encore ce saint graal qui va être de réaliser à terme son film cinéma, et tant qu'on n'a pas fait de film au cinéma, en gros on n'a rien fait quoi. Donc c'est assez intéressant de voir que pour plein de gens que je peux côtoyer, finalement les 23 années de réalisation intensive, parce que j'ai beaucoup bossé, finalement ça vaut rien du tout, ça vaut moins finalement que si j'avais réalisé ne serait-ce que un ou deux films au cinéma quoi.
Le choix de la mini-série en format série, est-ce que c'était un choix de votre part de pouvoir aborder des sujets qui vous tiennent à cœur et les donner à voir à un autre public ?
Je sais pas si vraiment ça change le public, dans la mesure où on est quand même sur une chaîne avec une diffusion linéaire, donc Canal+, après une diffusion sur plateforme, MyCanal. C'est pas comme si elle avait été en total accès libre, par exemple sur YouTube, ça aurait été encore autre chose. Ce format-là, court, 15 minutes par épisode, c'est juste que ce projet-là, je l'ai envisagé comme une succession de courts-métrages, en fait. Vu qu'il y avait déjà eu ce préquel qui était donc le court-métrage, je me suis dit, ok, on va le repenser autrement, on va le penser comme une succession de 8 courts-métrages, puisque chaque épisode a sa propre thématique en fin de compte. Chaque épisode est quasiment indépendant des autres, et on a refait la même chose sur la deuxième saison. On est aussi sur 8 épisodes qui sont indépendants, et que bon, il vaut mieux regarder dans l'ordre évidemment, mais qui sont quand même thématiques. Chaque épisode aborde une thématique précise. Sur la saison 2 par exemple, on est beaucoup plus sur la stigmatisation et ces questions-là. Mais je sais que c'est un format qui est pas forcément facile d'accès. C'est une série qui, malgré la reconnaissance internationale qu'on a eue avec les Emmy Awards et tout ça à New York, malgré tout, la série, à ma connaissance, n'est pas distribuée aux États-Unis. C'est un format qui est compliqué à vendre, entre guillemets, pour les distributeurs. C'est 8 fois 15 minutes, ça parle pas. On n'est pas sur un format classique. Format classique, c'est plutôt, par exemple, 6 fois 50 minutes, quoi. Là, on est sur un format un peu plus classique et plus facile à placer sur les plateaux.
J'ai eu l'impression que le personnage principal était dans une sorte de croisade engagée, similaire à la vôtre. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une part de vous dans le personnage de Romain ?
Il n'y a pas de part de moi dans le personnage de Romain. En revanche, il y a des éléments biographiques dans le reste, mais qui ne sont pas là où on l'attend, où on les attend. C'est-à-dire, on peut se poser la question de, tiens, est-ce que ces personnages ont réellement existé ? Ces personnages, ils n'ont pas réellement existé, aucun. Même pas le personnage de Romain, et pas non plus exactement le personnage d'André, qui est joué par Sophie-Marie Larouille. En revanche, il y a des bribes d'anecdotes pour chacun des persos qui sont mises en scène dans cette série, en fait. Il y a des choses inspirées du réel, on va dire. Mais c'est certainement pas une série autobiographique. Mais il y a un certain nombre de situations que j'ai pu observer, que j'ai pas forcément vécu moi-même, mais que j'ai pu observer. Mais les éléments biographiques, finalement, ils sont pas là où on les attend, dans la mesure où, par exemple, il y a des éléments qui font partie de ma vie, qui sont mis à l'écran, comme les chiens. Dedans, on retrouve mes chiens. C'est un truc tout bête, mais il y a des chiens qui sont les miens. Tous les chiens dans cette série sont pas les miens, mais il y en a un certain nombre qui sont les miens. Il y a des indices quand on commence à regarder chaque image. Il y a des éléments de décor. Quand on regarde, je sais pas, les affiches, les bibelots, etc., il y a des petits indices qui renvoient, je dirais, à ma vie à moi. Il y a des lieux dans lesquels j'ai vécu aussi, qu'on voit à l'écran. Il y a des images qui ont été tournées ici, à la fac de Limoges, par exemple. J'aurais pu choisir n'importe quelle autre fac. Bon, ben, on est venu tourner à la fac de Limoges. Il y a une collègue, Chloé Wacked, qui apparaît aussi dans la série, qui a un rôle de prof qui harcèle le personnage principal. Bon, voilà, il y a des petits clins d'œil comme ça qui sont pas strictement biographiques, mais qui, on va dire, appartiennent à mon univers et à ma vie.
Vous avez donc remporté un Emmy Awards pour le prix de la meilleure série courte. Comment s'est déroulée cette aventure ?
Ben déjà, ça a été une grosse surprise, ne serait-ce que la sélection. En fait, j'étais pas au courant. Je savais pas du tout. Si Jérémy Gillet, donc qui tient le rôle principal, qui un soir m'a appelé, c'était en septembre, je crois bien, c'était fin septembre que les sélections sont tombées. Moi, j'étais en train de faire mes courses. Il m'a appelé genre au rayon yaourt en me disant alors, est-ce que je pourrais parler à une réalisatrice sélectionnée aux Emmy Awards à New York. Je dis bah je vois pas pourquoi arrête de me flatter, parce que le rôle tu l'as déjà, donc ça sert à rien de me faire de la lèche. Et à ce moment-là, on était en préparation de la saison 2. Je dis t'as déjà le rôle, quoi, donc sert à rien de me cirer les pompes. Et il me dit non, mais sérieusement, ça te fait quelque chose. Je dis mais de quoi tu parles, en fait? De quoi tu parles? Et c'est là où il m'a dit mais non, mais on est sélectionné aux Emmy Awards. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Personne. J'ai passé la journée à la prod. Si quelqu'un était au courant à la prod, on me l'aurait dit, quoi. Et avec le décalage horaire, en fait, les résultats venaient de tomber, enfin les sélections venaient de tomber. C'est comme ça que j'ai appris qu'on était sélectionné. Donc ça a été la première étape. Je me suis dit tiens, c'est quand même fou. Vraiment, j'ai eu du mal à y croire. Et puis après, on a même hésité, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Ben franchement, on aurait eu tort de pas y aller. C'était assez surréaliste. On a vraiment eu l'impression de ramener la coupe à la maison, quoi, parce que on est les seuls Français à avoir gagné, à avoir remporté quelque chose lors de cette cérémonie. Il y avait d'autres Français qui étaient sélectionnés dans d'autres catégories, mais ils ont rien ramené, malheureusement pour eux. Mais donc voilà, il y avait ce côté, on ramène la coupe à la maison. Moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir gagné l'Eurovision, quoi. Il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là. C'était marrant. Donc dès le lendemain, il y a eu plein d'articles dans la presse française. C'était cette série française qui a conquis les Emmy Awards. Donc c'était marrant. C'est une vraie reconnaissance internationale. Honnêtement, c'est le plus gros prix que j'ai eu de ma carrière jusqu'à présent. C'est le plus gros prix. J'ai eu des jolis prix documentaires. J'ai eu une étoile de la SCAM. J'ai eu des choses comme ça. Mais vraiment de cette ampleur internationale, c'est le plus gros prix que j'ai eu.
Est-ce que le timing a été compliqué à ce moment-là ? Parce que j'avais vu que votre nomination arrivait pile au moment où vous prépariez la saison 2.
Alors, c'était assez inattendu parce que, effectivement, on a tourner la saison 2, tourner jusqu'à la veille de partir à New York, en fait. Je crois que c'était un jeudi. On a terminé le jeudi soir le tournage. J'ai fait le pot de tournage. Le lendemain matin, je suis partie. J'étais complètement déphasée et j'étais dans l'avion pour New York, quoi. Donc, ça a été vraiment sans transition. Bon, déjà, l'annonce de la sélection, juste la sélection, on l'a eu avant le début du tournage et ça, ça a motivé les troupes. Ça fait qu'on a eu beaucoup de galères sur cette deuxième saison parce qu'il a plu sans discontinuer. On a eu des décors, un décor inondé, par exemple. Enfin, voilà, il a plu tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a eu un cluster Covid aussi. Ça, c'est un peu compliqué en cours de tournage. Donc, vraiment, on a eu plein de galères, mais je pense que cette sélection aux Emmy Awards, ça a permis de remonter le moral des troupes. On avait repris en grande partie, donc une partie du casting et une partie des techniciens aussi. Et on a terminé après ce tournage super galère. Le lendemain, je prenais l'avion pour les Emmy Awards et puis on a eu cette belle récompense. Tout me semblait complètement lunaire. Moi, j'avais encore une partie de mon corps et de ma tête qui était en Charente en train de tourner la saison 2. Et on a gagné ce prix. Moi, j'avais rien préparé. J'avais pas préparé de ce qu'on appelle le speech acceptance, donc ce petit discours de remise. J'avais rien préparé. Je suis arrivée sur scène avec ma robe qui tombait. J'avais pas eu le temps de me préoccuper de mes vêtements, parce que c'est important, une cérémonie de remise quand même. On est quand même sur une grosse cérémonie de remise avec le red carpet et tout le tintouin. Et moi, j'avais pas, franchement, j'avais autre chose à faire que de me préoccuper de ma tenue vestimentaire. Donc ma mère m'avait prêté une robe, la veille de partir. J'ai mis la robe de ma mère qui fait évidemment pas la même taille que moi, ce serait beaucoup trop simple. Et donc je suis arrivée sur scène, j'avais la jupe qui tombait, qui était sortie de la ceinture, enfin bon, bref, rien n'allait quoi. Personne n'a vu, je crois.
J'ai une dernière petite question, par curiosité. Est-ce que vous avez d'autres projets similaires après la réalisation de la saison 2 ?
Similaires, pas tout de suite, parce que j'ai pas encore fini de monter la saison 2. Je pense que je finirai de monter en mars. On aimerait bien être prêt pour Cannes Série. On verra si c'est possible ou pas, si on est sélectionné ou pas. Et donc, je me projette pas encore immédiatement dans une fiction. En revanche, je viens de terminer un documentaire pour Arte sur Valérie Solanas, qui est la femme qui est entrée dans la factory et qui a tiré sur Andy Warhol, et qui est aussi l'autrice d'un manifeste féministe radical qui s'appelle le Scum Manifesto. Donc voilà, c'est une histoire sur à partir de ce fait divers-là, de cette femme qui a tiré sur Andy Warhol, qui est un fait divers qu'on a un peu oublié. Et voilà, qui est en même temps l'autrice du texte le plus radical de l'histoire des féminismes.
Je voulais vous remercier d'avoir accepté du coup de répondre à toutes mes questions et de m'avoir accordé de votre temps aujourd'hui. Pour rappel, Des gens bien ordinaires, réalisé par Ovidi, série venant de remporter le Emmy Awards de la meilleure série courte, est à découvrir sur Canal+.
C'était le magazine culturel sur RTF. Retrouvez-nous également sur internet rtflimoges.com.